Bien, chers frères et sœurs,
dragi frați și surori,
tous très proches de mon cœur,
toți foarte apropiați de inima mea,
que la paix soit avec vous.
Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu voi.
Permettez-moi tout d'abord,
permiteți-mi mai întâi,
de pouvoir vous transmettre les salutations chrétiennes.
Vă transmit saluturile creștine.
De mon épouse, la sœur Christine.
Partea soției mele, sora Cristina.
Mais tout particulièrement.
Dar mai cu seamă.
De deux personnes qui vous sont très chères.
Din partea a două persoane care vă sunt dragi.
De mes enfants.
Cei doi copii ai mei.
De la sœur Gabi.
Sora Gabi.
Et du frère Michel.
Și fratele Michel.
Qui avaient à cœur tout spécialement de vous transmettre tout leur amour. Vous avez également les salutations de tous les frères et sœurs de France.
Aveți de asemenea saluturile tuturor fraților și surorilor din Franța.
Dont Dieu m'a donné le privilège récemment de visiter.
Frați pe care i-am vizitat datorită grijii Tatălui Ceresc
înainte de a veni. Sans oublier également les frères de Belgique.
De asemenea, nu voi uita pe frații din Belgia.
Le thème de notre sujet. Le thème de notre sujet sera intitulé une invitation inattendue.
Tema sau așa subiectul nostru de astăzi va fi o invitație neașteptată.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père.
În casa tatălui meu sunt mai multe locașuri.
Si cela n'était pas,
dacă n-ar fi așa,
je vous l'aurais dit.
V-aș fi spus-o.
Je vais vous préparer une place.
Vreau să vă pregătesc un loc.
Et lorsque je m'en serai allé,
și când mă voi fi dus,
et que je vous aurai préparé une place,
eu vi-l voi pregăti.
Je reviendrai.
Eu mă voi întoarce.
Et je vous prendrai avec moi.
Și vă voi lua la mine.
Afin que là où je suis,
pentru că acolo unde sunt eu,
vous y soyez aussi.
Să fiți și voi.
Ce sont les paroles de notre Seigneur,
cuvintele Domnului nostru,
qui se trouvent dans l'Évangile de Jean,
care se găsesc în Evanghelia lui Ioan,
chapitre 14,
capitolul 14,
versets 2 et 3.
Versetul 2 și 3.
Notre Seigneur attire ici l'attention.
Domnul nostru atrage aici atenția
sur la grande maison de son père bien-aimé.
Asupra casei mari a tatălui său iubit ceresc.
Une maison qui englobe tout l'univers.
O casă care conține sau care e formată din tot universul.
Tant les choses qui sont visibles.
Atât lucrurile care sunt vizibile.
Que celles qui nous sont invisibles.
Cât și lucrurile care nu sunt vizibile.
Selon les paroles de notre Seigneur.
După cuvintele Domnului nostru,
il apparaît que le grand palais de Dieu,
pare că marele palat al lui Dumnezeu,
se compose de nombreuses demeures.
Se compune din multe locuințe.
Le Logos y avait une place particulière.
Acolo, Logosul avea un loc deosebit.
Les anges occupent des positions différentes.
Ingerii ocupă poziții diferite.
Lucifer.
Lucifer,
l'un des archanges,
unul dintre arhanghe,
planifia de s'élever au-dessus de toutes les positions célestes.
Și-a pus în plan să se ridice deasupra tuturor pozițiilor cerești.
Et convoita de devenir l'égal de Dieu.
Și a dorit ca să fie egalul lui Dumnezeu.
Pour sa rébellion,
pentru această rebeliune sau răscoală împotriva lui Dumnezeu,
il fut destitué de la position dans laquelle il était.
El a fost destituit din această poziție pe care o ocupa.
Une de ses demeures,
una dintre aceste locuințe,
constitue notre globe terrestre.
Se referă la globul nostru pământesc.
La résidence de l'homme.
Și aceasta este reședința omului.
Dieu domine dans son palais éternel.
Dumnezeu domnește în palatul său veșnic.
Il est écrit.
Este scris.
Voici à l'Éternel ton Dieu.
Iată, Domnul Dumnezeu tău.
Appartiennent les cieux.
Adică Domnul Dumnezeu tău îi aparțin cerurile.
Et les cieux des cieux.
Și cerurile cerurilor.
La terre et tout ce qu'elle renferme.
Pământul și tot ce conține el.
Les paroles de notre Seigneur
cuvintele Domnului nostru,
bază de notre réflexion,
care constituie baza reflexiei noastre de astăzi,
nous enseigne
ne învață
que la nouvelle création en préparation
că noua creatură în pregătire
se diferenție,
se diferențiază
et constitue quelque chose de particulier par rapport à tous les êtres célestes et terrestres. Il n'y a jamais existé de telle place dans tout le palais divin. C'est pourquoi notre Seigneur donna l'assurance à ses disciples. Qu'il devait l'équiper pour aller leur préparer une place. L'apôtre Paul s'adresse à cette classe d'appelés. Et il déclare, nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 9. Cette classe qui est constituée de nouvelles créatures fut prévue par Dieu depuis les temps les plus reculés. Car l'apôtre Paul déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'élection de cette classe fut très longtemps cachée, mais montrée dans de nombreuses images de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quant à l'apôtre Paul, il nous dévoile cette classe en Romains chapitre 12, versets 4 et verset 5. Lorsqu'il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. L'apôtre précise que Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce qui veut dire que le secret qui était longtemps caché constitue le fait que Christ devait se composer de la tête et du corps de notre Seigneur et de l'Église, qui est souvent définie dans la classe des Vierges Sages, et parfois identifiée comme étant le petit troupeau. Lorsque l'apôtre Jean parle de cette classe d'appelés, il dit en Apocalypse chapitre 14 et verset 1er, je regardais et voici, L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Lorsque notre Seigneur fut sur la terre, il donna donc une invitation inattendue à ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Et quelle invitation! Venez à moi! Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Entrez par la porte étroite. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Le grand apôtre Paul complète sa pensée lorsqu'il déclare en Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le changement de la nature terrestre à la nature spirituelle n'est uniquement donné qu'à ceux qui, pendant cet âge de l'Évangile, déposent ou sacrifient leur nature humaine, comme l'a fait notre Seigneur. Toutes nos intentions, tous nos buts, toutes nos espérances, tous nos profits actuels et prochains doivent être sacrifiés, et cela jusqu'à la mort. Ainsi, par la consécration, l'esprit est renouvelé. Notre espérance et notre but commencent à nous élever vers les choses spirituelles et invisibles promises. Pour ce qui concerne des espérances terrestres, celles-ci doivent cesser d'exister. Elles doivent être mortes. L'apôtre Jean déclare dans sa première épître, chapitre 3 et verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. que nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Paul compare la condition actuelle avec la prochaine. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 et 43, il déclare. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Et il ressuscite corps spirituel. Les corps spirituels. Des membres ressuscités sont incorruptibles et ne peuvent être subordonnés à la mort. Cette caractéristique, par sa nature, appartient à Dieu. Il est aussi dit que notre Seigneur, pour son obéissance, a reçu la nature du Père, une nature immortelle, incorruptible, divine. Mais poursuivons notre réflexion sur l'invitation inattendue. La Bible nous décrit avec précision la fin de carrière de certains hommes de Dieu qui, au terme de leur vie, représentent les derniers membres du corps de Christ de ce côté du voile. Ce sont Moïse, Élie et Jean-Baptiste. Chacun d'entre eux termina sa vie d'une façon différente. Mais voyons à présent la fin de carrière de Moïse. Après 40 années éprouvantes dans le désert, à la tête du peuple d'Israël, Dieu lui dit, monte sur cette montagne, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur cette montagne où tu vas monter. Moïse, dont l'humilité était exemplaire, voit ici la fin de sa pénible carrière. Mais parce qu'il a péché devant Dieu, en présence des enfants d'Israël, aux hauts de Meriba, à Kadesh, dans le désert de Tsin, cette erreur ne lui a pas permis d'entrer en terre promise. Cela nous est rapporté en Deutéronome chapitre 32 et verset 51. Ainsi, Moïse ne pouvait entrer en terre promise.
Moïse nu putea să intre în țara făgăduinței.
Tout comme Aaron n'a pu non plus rentrer en terre promise.
Tot așa cum nici Aaron n-a putut să intre în țara făgăduită.
Car il mourut sur la montagne de Hor.
Căci el a murit pe muntele
C'est en toute humilité que Moïse accepta ce verdict. Mais là, sur la montagne, il est bon de préciser qu'il y avait également une toute autre signification ou raison pour laquelle Moïse devait mourir sur cette montagne. Et non à un autre endroit. Sur cette montagne. Moïse est l'image de la fin de carrière de l'Église. Tout comme Moïse fut à la charnière de la grâce de Dieu. Ainsi en est-il des derniers membres du corps de Christ. Qui, au terme de ce chemin difficile, est couvert d'épines, sont debout sur la montagne et attendent par la foi leur changement dans la gloire. L'image de Moïse a son application dans le fait qu'il a été remplacé par Josué, le chef qui devait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Ainsi, la carrière de l'Église se termine de ce côté du voile avant que Christ, la tête et le corps glorifiés, Josué antitype, fera entrer en puissance et en gloire toute l'humanité dans le merveilleux et glorieux royaume du Seigneur. L'image doit avoir son accomplissement. Et il est dit, en Deutéronome chapitre 34 et verset 5, que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'expression hébraïque, selon l'ordre de l'Éternel, est rendue plus fidèlement par les lèvres de l'Éternel. Les rabbins juifs donnèrent à ces paroles une expression poétique. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, par le baiser du Seigneur. Et nous avons ici l'image d'un père qui embrasse son enfant pour le sommeil. Pour notre Père Céleste, la mort des saints a toujours été une embrassade de son enfant pour le sommeil. Je pense que nous acceptons tous que les membres du petit troupeau qui ont été dans le sépulcre
care au fost în morminte,
jusqu'au retour de notre Seigneur
până la reîntoarcerea Domnului nostru,
sont à présent réveillés, ressuscités.
Sunt în prezent, prezici, în viață.
Selon les paroles de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre Paul n'avait certainement pas en pensée que ceux qui seront restés pendant la seconde présence de notre Seigneur devaient tous ensemble au même moment tous être changés. Mais l'apôtre Paul pensait vraisemblablement que dans la mesure où certains d'entre nous terminent leur course jusqu'au dernier membre, tous devaient participer à ce changement. Vous connaissez probablement l'exemple du train. Dans lequel tous les wagons se suivent. Les wagons roulent ensemble. Mais tous les wagons ne passent pas au même moment devant la gare. Vous connaissez également l'exemple. Des enfants qui sortent tous ensemble de l'école, mais qui tous ne passent pas au même moment devant la porte. Mais ils passent l'un après l'autre. Et ces deux exemples ont ici une sérieuse application. Ces deux images peuvent nous représenter le processus actuel de la résurrection des derniers membres du petit troupeau. Si nous regardons sur Moïse, lorsqu'il était animé d'une très grande confiance en l'Éternel, Moïse se tenait debout au sommet du Pisgah. Depuis ses hauteurs, il pouvait scruter l'horizon. Il pouvait voir la terre promise. Il pouvait voir les plaines et les collines de Canaan. Où il ne devait pas entrer. Il est difficile de dire aujourd'hui. Il pouvait scruter l'horizon. Il pouvait voir la terre promise. Il pouvait voir les plaines et les collines de Canaan. Où il ne devait pas entrer. Il est difficile de dire aujourd'hui
E greu să spunem astăzi.
Quels étaient les sentiments de Moïse à ce moment-là?
Care erau sentimentele lui Moise în acel moment?
Moïse savait certainement.
Moise știa cu siguranță.
Qu'au moment où il se trouvait là debout admiratif, devant un si grand spectacle, le peuple d'Israël, qui lui était resté dans la vallée, se trouvait probablement occupé par les soucis de la vie et les divertissements. Le Moïse antitypique, c'est-à-dire les derniers fidèles, le peuple du Seigneur, aujourd'hui, se trouve sur les hauteurs à la fin de son voyage, au soleil couchant. Les fidèles aujourd'hui vivent sur une position beaucoup plus élevée que celle du monde. Les consacrés aujourd'hui respirent une meilleure atmosphère. Comme cela nous est montré sur le plan des âges par la ligne M. Qui nous montre la condition des engendrés de l'Esprit Saint. Souvenez-vous à quelle position se trouve le monde? D'après le plan des âges, le monde se trouve sur la position R. Dans la condition de péché, dans la vallée. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 2 et verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous bénéficions des conditions appropriées pour le développement de la nouvelle créature. Nous nous nourrissons des pains de proposition. Nous sommes éclairés par le chandelier d'or. Et nous bénéficions de l'autel des parfums qui nous représente nos prières. Pendant que nous nous trouvons sur ces hauteurs, dans la condition du saint du tabernacle, nous vivons dans la perspective de la patrie qui nous est promise. Pendant que dans la vallée, le monde suit toujours le mauvais chemin de la dégradation et du péché. Le Seigneur a identifié cette condition à celle des jours de Noé et de Lot. Aujourd'hui, à l'aide de la providence divine, nous observons de nos yeux la désintégration de la structure humaine. Car le Seigneur est présent avec une couronne d'or sur sa tête et une faucille. Sous l'effet de sa présence, toute la terre tremble. Le monde païen et chrétien aujourd'hui se diversifie. Il s'adonne au plaisir, à la corruption, à la tromperie, à la méchanceté. Le monde aujourd'hui achète et vend.
Lumea de astăzi cumpără și vinde.
Pendant qu'au même moment, d'autres n'ont pas de quoi manger. L'argent pénètre tous les domaines de la société. Pour le malheur de tous les habitants de la terre. Mais Moïse, serviteur de Dieu, était dans le ravissement. Il savait que sa fin était imminente. Mais Moïse se reposa sur la providence divine. Et Moïse ne craignait pas la mort. Il se tient debout devant elle. Il était courageux. Il était très réconforté. Il était aussi reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, les derniers membres du corps de Christ se tiennent également debout devant la rivière de la mort. Les derniers membres du corps de Christ attendent aujourd'hui le baiser du Père, ainsi que leur participation dans la gloire. Nous connaissons tous la condition de notre consécration. L'apôtre Paul déclare, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Cela signifie qu'au moment de notre consécration, nous avons tous volontairement et délibérément condamné notre corps charnel à la mort. Et nous avons fait plus que cela. Car au travers de notre justification, nous avons renoncé aux droits et aux privilèges de l'âge prochain. Cela signifie aussi que nous n'avons plus de place permanente sur la terre. Le Père a reconnu, puis il a accepté notre choix qui nous conduit vers notre demeure céleste. L'apôtre Paul attendait ce moment avec impatience. Et il dit, en ce qui me concerne, je suis bien près du sacrifice de ma vie. Le moment du grand départ approche. Le grand apôtre savait qu'il ne pouvait pas atteindre la gloire avant qu'il ne dépose son corps charnel, qui n'était qu'une demeure provisoire pour la nouvelle créature. Toutefois, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il lui faudrait attendre près de 18 siècles pour être honoré de la récompense. Ainsi, selon sa promesse, le Seigneur devait d'abord préparer une place pour l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, et pour tous les vainqueurs de l'âge de l'Évangile. Nous avons une grande confiance qu'une place nous sera également attribuée. Aujourd'hui, nous vivons un temps privilégié.
Astăzi, noi trăim un timp privilegiat.
Car la place nous est déjà préparée.
Locul ne este deja pregătit.
Elle est prête pour nous recevoir.
Și el este gata ca să îl putem primi.
Le Seigneur est présent.
Domnul este prezent.
Il fait aujourd'hui rendre des comptes à ses serviteurs. Et leur donne la récompense. Aujourd'hui, nous profitons des bénédictions les plus précieuses dont l'Église n'a pas pu bénéficier pendant près de 19 siècles. Car le Seigneur nous a préparé une table garnie. La nourriture au temps convenable qui nous permet de nous nourrir
care ne permite să ne hrănim
et de croître dans la vérité.
Și să creștem în adevăr.
Cette nourriture
această hrană
nous permet de nous élever,
ne permite să ne ridicăm,
de gravir la montagne de la rencontre avec le Seigneur.
Să urcăm pe muntele întâlnirii cu Domnul.
Celui qui vaincra,
acela care va învinge,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
Îl voi face să stea cu mine pe tron.
Comme moi j'ai vaincu,
după cum și eu am învins,
et je me suis assis avec mon Père sur son trône.
Și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul său.
A dit le Seigneur.
A spus Domnul.
La promesse du Seigneur
promisiunea Domnului
a très certainement un écho dans notre cœur et dans notre esprit.
Are cu siguranță un eco în inima și mintea noastră.
Lorsque nous l'associons à notre texte de base.
Atunci când o asociem cu textul nostru de bază.
Je vous prendrai avec moi.
Vă voi lua cu mine.
Afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Pentru că acolo unde eu sunt, să fiți și voi cu mine.
Le Seigneur étant présent,
Domnul fiind prezent,
il est prêt à nous prendre.
E gata să ne ia.
Il nous prendra très certainement,
și ne va lua cu siguranță,
à condition,
cu condiția,
que nous accomplissons pleinement notre sacrifice,
ca noi să ne îndeplinim pe deplin jertfirea noastră,
pour nous associer à lui sur son trône.
Pentru ca apoi să fim cu el pe tronul său.
Il nous appartient toutefois,
totodată trebuie ca noi
de nous assurer que nous sommes prêts à cette rencontre.
Să ne asigurăm că suntem gata de această întâlnire.
Si comme Moïse,
dacă ca și Moise,
nous attendons paisiblement et avec confiance,
noi așteptăm liniștit și cu încredere
le baiser du Père,
sărutul Tatălui,
quel qu'en soit le moment,
oricând sau nu are importanță când va fi acest moment.
Si nous ne sommes pas animés d'une telle disposition,
dacă noi nu suntem animați de o asemenea dispoziție,
que faisons-nous pour nous préparer rapidement?
Ce să facem noi să ne pregătim într-un mod rapid?
Il est vrai que la vue de la mort n'a jamais été agréable.
Că vederea morții n-a fost niciodată plăcută.
Il est également vrai
este de asemenea adevărat
que la mort a développé durant des siècles
că moartea a dezvoltat de-a lungul secolelor
un grand marché financier,
un mare drum financiar.
Il est tout aussi vrai
de asemenea adevărat
que la mort est le plus grand ennemi de l'homme naturel.
Că moartea este cel mai mare dușman al omului natural.
Car à l'origine, l'homme a été créé pour vivre et vivre éternellement.
Căci la origine, omul a fost creat ca să trăiască veșnic.
En tant que consacré,
în calitate de consacrat,
nous qui avons remis notre vie entre les mains du souverain sacrificateur,
noi ne-am predat viețile noastre în mâinile marelui preot.
Nous devons également nous assurer
și trebuie să ne asigurăm de asemenea
que nous croyons à ce que nous enseignons.
Că noi credem în ceea ce învățăm.
Que nous disent les Écritures?
Ce ne spun Scripturile?
Existe-t-il un seul verset dans la Bible
există oare un singur verset în Biblie
qui sous-entendrait que la mort est un ennemi pour les consacrés?
Care ar spune că moartea este un dușman pentru consacrați?
Remarquons.
Să remarcăm
Nous parlons bien ici de consacrer au Seigneur.
Vorbim aici de consacrații Domnului.
Figurativement, notre corps a déjà été condamné à mort.
În mod figurativ, corpul nostru a fost deja condamnat la moarte.
Figurativement, il a été crucifié à notre consécration.
Și în mod figurativ, el a fost crucificat la consacrarea noastră.
Lorsque nous avons été engendrés de l'Esprit.
Atunci când am fost conceput de Spirit.
Depuis ce moment-là, le corps ne nous appartient plus.
Din acel moment, corpul nu ne mai aparține.
Il est prêté à la nouvelle créature.
El este împrumutat noii creaturi.
Pour tout le temps de son développement, de ce côté du voile.
Toată perioada de dezvoltare a lui din coace de voile.
C'est au terme de notre vie terrestre.
Și la sfârșitul vieții noastre pământești.
Que la mission de notre corps charnel s'arrête.
Misiunea corpului nostru pământesc. Carnal, adică se termină.
Ainsi pour les consacrés.
Tot așa este ce privește pe consacrați.
La mort ou la destruction du corps humain.
Moartea sau distrugerea corpului uman.
Constitue à la fois une libération.
Constituie totodată o eliberare.
Une délivrance.
Da, o eliberare.
Et la naissance de la nouvelle créature au-delà du voile. Bien chers frères et sœurs, cette perspective est-elle triste ou réjouissante? Que chacun d'entre nous réponde personnellement à cette question. L'apôtre Paul déclare en Romains chapitre 6, versets 6 à 8, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et l'apôtre complète sa pensée en Galates chapitre 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le corps, dans la condition actuelle, ne fait que rendre plus difficile la progression de la nouvelle créature. Et l'apôtre Paul nous encourage lorsqu'il dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Moïse ne sait pas opposé au Seigneur pour avoir déterminé sa mort sur le mont Nebo. Il n'a pas non plus justifié que son travail était très difficile pendant toute la période de l'errance. Moïse fut décidé. Calme et serein,
il
fut confiant à la volonté de Dieu. Sur la montagne, les derniers membres du corps de Christ attendent. Comme l'apôtre Paul le déclare, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Remarquez. Désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Aujourd'hui encore, nous marchons accablés par les difficultés de la vie, les larmes et la maladie. Ces conditions nous aident à désirer notre demeure céleste. Mais peut-être développons-nous cet autre sentiment. Et nous sommes quelquefois appelés à entendre certains frères et certaines sœurs déclarer. Oui, Seigneur, je sais que cela sera merveilleux. Mais attends encore un peu. Je voudrais vivre encore quelques années. Ou encore, il nous arrive d'entendre, lorsque le Seigneur rappelle à lui l'un de nos frères ou de nos sœurs, ou certains stupéfaits déclarent. Le pauvre, il est mort. Pourquoi, Seigneur? Il nous serait encore tellement utile ici. Pourquoi si tôt? Pourquoi si jeune? Rappelons-nous d'Étienne. Il était prêt à recevoir sa récompense dans un âge très petit. Certains réagissent souvent de cette manière à la vue de la mort. Parfois, la foi est ébranlée. Comme si nous avions oublié notre vœu de sacrifice. Comme si nous avions oublié que le baiser du Père, au travers de la résurrection, nous introduit instantanément en un clin d'œil dans la gloire. Sur cette base, sommes-nous autorisés à donner des commentaires comme nous venons de le voir? Si Dieu en a décidé ainsi, pourtant, le plus grand bonheur qui puisse nous arriver est très certainement celui de rencontrer le Seigneur. Et le plus rapidement possible. Pourquoi disons-nous le plus rapidement possible? Nous disons cela car bientôt il sera trop tard. Trop tard. Lorsque l'antitype Josué sera complet et qu'il conduira l'humanité dans la terre promise. C'est pourquoi la compréhension du baiser du Père doit nous permettre de penser différemment à ce que nous faisons et ce que nous disons parfois. Laissons à Dieu la décision de notre délivrance et acceptons-la.
Să lăsăm lui Dumnezeu hotărârea eliberării noastre și să acceptăm.
David declară. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. La mort des disciples de la croix du Seigneur lui est très précieuse, car son issue est merveilleuse. Elle conduit à la joie durable et infinie, à la rencontre de l'être suprême, à la rencontre de Dieu notre Père. D'où la consolation de l'apôtre Paul. En 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 13, il déclare, il nous invite. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont dépourvus d'espérance peuvent être affligés, peuvent être craintifs et trembler devant la mort. Mais un tel sentiment n'a pas sa place parmi les soldats de la croix de Christ. En Apocalypse chapitre 14 et verset 13, nous lisons. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent. Depuis quand? Le message donné par l'apôtre Jean ne se rapporte pas à l'ensemble de l'âge de l'Évangile, mais dès à présent, depuis le retour du Seigneur, depuis la résurrection de l'Église, nous vivons dans ces moments bénis. Car après le baiser du Père, aujourd'hui plus personne des vainqueurs ne doit attendre dans la tombe, mais est changé en un clin d'œil de la condition corruptible à la condition incorruptible. De la condition méprisable à la condition glorieuse. Au terme de notre vie sur cette terre, cessera notre travail dans des conditions difficiles, dans la fatigue et souvent dans beaucoup de larmes. Mais grâce au changement, les membres pieds parviennent à la même condition de gloire qu'ont reçu ceux qui, avant eux, attendaient dans la tombe pendant des siècles. Aujourd'hui, les derniers membres du corps de Christ sont enlevés un à un de la terre afin d'être associés avec le Seigneur dans la gloire. Puis ceux qui, avant eux, attendaient dans la tombe pendant des siècles. Aujourd'hui, les derniers membres du corps de Christ sont enlevés un à un de la terre afin d'être associés avec le Seigneur dans la gloire en vue de l'administration des affaires de ce monde. C'est à ce titre que l'apôtre déclare, il transformera notre corps misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Depuis 6000 années déjà, la mort détruit des familles et des amitiés. Dieu ne regarde pas avec indifférence ce cortège de malheur. Dieu sait lorsque des larmes coulent. Dieu entend lorsque nous nous adressons à lui. En fait, Dieu, c'est notre meilleur ami. C'est notre Père. Nous avons aussi la conviction que ceux qui restent, qui sont affectés par la tristesse, nous savons qu'ils ne sont pas laissés à leur triste sort. Car Dieu prend soin d'eux. L'homme a été doté de sentiments, mais ceci s'exprime tout particulièrement face à la mort. Le Seigneur, lui aussi, a pleuré devant la tombe de Lazare. Non pas parce que Lazare est mort, car beaucoup d'autres personnes sont mortes. Et il n'est pas écrit que Jésus pleura à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui mourait. Mais Jésus a pleuré face au poids de la sentence de mort. Rendue évidente par la mort de Lazare. Sachant qu'il est venu dans ce monde pour délivrer l'homme qui a péché, mais qui jadis avait été créé pour vivre. La mission de notre Seigneur était donc de la plus grande importance. C'est pourquoi l'invitation inattendue nous permet d'attendre et d'espérer de recevoir la place que le Seigneur nous a préparée. À condition que nous le méritons. Le temps est court. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Hébreux, chapitre 10 et verset 38. Celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Attendons donc avec impatience le baiser du Père, afin que nous puissions être comptés dignes participants de la gloire de notre Seigneur, pour l'éternité. Je voudrais terminer avec un verset. Au reste, frères, de Corinthiens, chapitre 13 et verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ce que je souhaite à chacun d'entre vous de tout mon cœur, ainsi qu'à moi-même.
Iubiți frați, iubite surori,